Géopolitique, Marie-France Satin.
Géopolitique, le débat, quelle est la place de la Russie aujourd'hui dans le monde? Quelle nouvelle perspective pour les relations entre Washington et Moscou? Que veut pour elle-même la Russie? Nos invités, Marie Mindras, professeure à la London School of Economics et à Sciences Po Paris, Pierre Conessa, directeur général de la Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique, Eric Margolis, journaliste américain, et Galia Ackerman, journaliste de la rédaction russe de Radio France Internationale. Pierre Conessa, vous vouliez réagir à ce qu'a dit précédemment Eric Margolis?
Je ne voudrais pas apparaître comme un défenseur de Poutine. Mon propos est d'essayer de prendre les phénomènes stratégiques tels qu'ils sont aujourd'hui dans le processus de globalisation. Prenons le cas du désarmement. Bon. Aujourd'hui, on a une nouvelle initiative Obama qui touche les têtes nucléaires, etc. C'est très bien, ça occupe. Bon. Regardons l'architecture internationale de sécurité dans tous ses aspects. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis 8 ans, les États-Unis se sont retirés de tous les grands dispositifs internationaux de sécurité. Ils n'ont signé ni la convention des mines antipersonnelles, ils n'en veulent pas de la convention sur les petites armes. Ils ont mis des conditions telles à la convention sur les armes chimiques qu'elle est inapplicable en termes de vérification, et ils se sont alignés sur l'Iran et la Chine. Enfin, plutôt l'Iran et la Chine sont alignés sur la position américaine. Ils ont contesté le traité ABM, et en installant le système antimissile, ils mettent à plat finalement tous les grands équilibres nucléaires. Ça, c'est un fait, c'est-à-dire que si on doit parler des armements, il faut parler d'une architecture d'ensemble. Or, on a aujourd'hui une équipe qui quitte le pouvoir à la Maison Blanche et qui pensait que la sécurité du monde, c'était une chose, la sécurité des États-Unis, c'était autre chose. Donc, parlons des armements, mais parlons de sa totalité. Deuxième remarque, il y a des perceptions et il y a des faits. Je veux bien qu'on puisse s'inquiéter de la poussée d'équipements militaires de la Russie aujourd'hui, mais enfin, les chiffres sont là. Les budgets militaires russes, autant qu'on puisse l'estimer, est aux alentours de 70 milliards de dollars. Le budget chinois est autour de 90. Et le budget américain est à 500. Donc, je veux dire, parle-t-on des mêmes choses? Parlons-en complètement. Je crois que monsieur a des remarques à faire sur la question. Il y a un véritable débat sur cet effort d'équipement américain qui a commencé sous l'époque Clinton. Et la question est, est-ce que ça va se poursuivre aujourd'hui et pourquoi?
Eric Margolis.
Malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, les dépenses militaires sont un recours pour la mauvaise économie. C'est ce que President Franklin Roosevelt a fait dans les années 30. Les États-Unis est resté en dépression jusqu'à le commencement de réarmement contre le Japon. Ma problème, c'est que aux États-Unis, les néoconservateurs ont formé la pensée, la stratégie de l'administration Bush. Et vraiment, président Bush avait un esprit enfantin, une connaissance enfantin vers le monde extérieur.
Mais Bush n'est plus là. Alors, est-ce que les choses ont changé avec Barack Obama?
Mais les néoconservateurs
sont toujours dans le coin, dans les
ombre est très très bien, fortement au Pentagone. Si ça va changer, on ne sait pas encore, mais il y a des intérêts institutionnels qui restent toujours, on appelle comme the powers that be. Et je me souviens, mon président américain préféré, président Dwight Eisenhower, dans les années 50, quand il était en train de se retirer du présidence, il a dit aux Américains, méfiez-vous de
le complexe militaire
industriel. Il avait raison et il a aussi appelé aux Américains de éliminer tout à fait les armes nucléaires. Ce n'est pas arrivé. En fait, aujourd'hui, le Pentagone est en train d'essayer de créer des armes plus petites mais plus efficaces nucléaires pour bombarder les musulmans.
Alors, on va reparler de la Russie. Évidemment, on ne peut pas parler de la Russie sans parler des États-Unis, c'est clair. On va se tourner vers vous, Marie Mindras et Galia Ackerman, ici en studio. Pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des ambitions de la Russie sur le plan planétaire, Marie Mindras?
La Russie se trouve aujourd'hui dans une situation délicate parce qu'elle a adopté ces dernières années une position à la fois dans les discours et dans les faits, une position agressive. Le conflit mené en Géorgie au mois d'août, ça faisait partie de cette politique agressive, c'est-à-dire à la fois protectionniste d'un côté. Nous, les Russes, nous sommes suffisamment forts pour nous débrouiller tout seuls, donc ne venez pas nous donner des leçons. Et en même temps, hostile à l'égard de ses voisins et à l'égard de l'Europe. Et maintenant, la Russie est en pleine crise financière et économique. comme la plupart des pays du monde industrialisé. Et je crois qu'il faut bien mettre les deux éléments ensemble, c'est-à-dire à la fois la poussée de la Russie dans le domaine international qui a été d'essayer de refaire sa place de manière assez agressive, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que la Russie n'a pas été constructive dans aucun des dossiers de sécurité. Si on prend par exemple la relation avec l'Iran, on a essayé de faire que la Russie soit un médiateur entre nous et l'Iran, et elle n'a pas réussi à le faire. Donc la Russie n'a jamais eu une position réellement constructive dans les dossiers de sécurité internationale. Mais aujourd'hui, les dirigeants russes sont face à des difficultés très sérieuses à l'intérieur. C'est un régime qui n'est pas démocratique. C'est un régime qui n'a pas de compte à rendre à sa population, qui n'a pas de compte à rendre aux parlementaires, aux entreprises. Et donc je crois qu'ils vont être, d'une certaine manière, beaucoup plus démunis encore que nos gouvernants face aux énormes contraintes intérieures. Et je pense très franchement qu'ils n'ont absolument aucune idée de comment est-ce qu'ils vont manier en même temps l'instrument de politique étrangère et faire face aux défis intérieurs dans les 2-3 années à venir.
Galia Ackermann.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse de Marie Mandras. Parce que, justement, comme j'ai dit au début de cette émission, je crois que paradoxalement, la crise pourrait aider la Russie à resserrer ses liens avec le proche étranger, ce qu'on appelle le proche étranger, c'est-à-dire les ex-républiques soviétiques. Je donne un exemple de Biélorussie. La Biélorussie est restée une république, un pays quasiment socialiste avec très peu d'industrie privée, où le gros de l'industrie, vous savez, c'était la république la plus industrialisée de l'ex-Union soviétique, le gros de l'industrie est resté intact, mais cette industrie ne trouvait plus de preneurs. Maintenant, avec l'effondrement du rouble russe et biélorusse en quelques mois, l'inflation, enfin pas l'inflation, mais disons la dépréciation du rouble russe atteint presque 50%, et ça va continuer, c'est-à-dire que selon les prévisions, le dollar de 24 roubles pour un dollar va probablement à la fin de l'année 2009 être à 70 roubles pour un dollar. Les importations deviennent de plus en plus difficiles. Par contre, il redevient avantageux de reconstruire un espace économique commun, et les échanges avec la Biélorussie vont augmenter de centaines de pourcents, parce que enfin l'industrie biélorusse, bien sûr pas concurrentielle par rapport à l'Occident, va trouver preneur. En même temps, on resserre les liens militaires. La Biélorussie vient de signer avec la Russie un accord sur la défense antiaérienne commune. Je pense que, encore une fois, la crise est un élément qui permet de reconstruire en partie l'espace post-soviétique. Et là, bien sûr, il faut se demander qu'est-ce qui est agressif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que quand la Russie veut reconstruire l'espace post-soviétique, elle ne prend pas tellement en compte les désirs de tel ou tel peuple. L'opération en Géorgie l'a montré, les menaces qui pèsent sur l'Ukraine le montrent également, c'est-à-dire on a une question plus générale, et c'est là qu'intervient donc ce débat entre, disons, les néocons et les adeptes de la réelle politique. Qu'est-ce que nous, les Occidentaux, souhaitons dans cette situation? Est-ce qu'on met en avant les souhaits de tel ou tel peuple de se libérer totalement de la tutelle russe, ou est-ce que nous disons, et en termes de géopolitique, c'est tout à fait pertinent, la Russie ne nous menace pas, en tout cas pas pour l'instant, mais ces peuples, bon, ils ont déjà été dans le giron russe, ça fait partie de l'Empire russe, ça fait partie de l'Union soviétique, donc c'est légitime. Est-ce que c'est vraiment légitime? C'est une autre question.
Alors, qui veut répondre à cette question soulevée par Galia Ackermann? Pierre Conessa.
Je crois que la question de Galia est tout à fait opportune. On ne parle pas démocratie, on parle stabilité et stratégie internationale. Bon. Moi d'abord, ce qui me frappe sur votre question d'origine, c'est que la crise financière américaine, l'échec militaire américain en Irak et en Afghanistan prouve qu'aujourd'hui il n'y a plus aucune puissance capable de gérer la sécurité de la planète. Et je ne crois pas qu'on aille non plus vers une bipolarité. Ni Russes ni Américains ne sont aujourd'hui en mesure de gérer la stabilité de la planète. Il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a le monde arabo-musulman, etc. Deuxième chose, si les démocraties étaient toutes des ferments de sécurité internationale, on n'aurait quand même pas aujourd'hui la guerre en Irak, on n'aurait pas la moitié des Européens et des Américains en Irak et en Afghanistan, et on n'aurait probablement pas l'occupation des territoires occupés par Israël avec la guerre comme ça s'est passé à Gaza. Donc on parle stabilité internationale, on ne parle pas de démocratie. Maintenant la question essentielle que pose Gadia, moi je suis tout à fait d'accord avec elle, y a-t-il une réflexion stratégique européenne sur la Russie ? Parce que nous ne sommes pas dans la même position que les Américains.
La réponse est...
À mon avis, non. Mandil, le rapport Mandil, vous savez, l'ancien patron de l'Agence internationale de l'énergie, avait fait un rapport pour le Premier ministre dans lequel il disait, vous savez, il y a une espèce de contradiction entre diaboliser la Russie d'un côté, puis en même temps dire que c'est un partenaire énergétique essentiel. Il faut savoir sur quel terrain on se place. Donc, de ce côté-là, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de pensée européenne. Il y a aujourd'hui le sillage de ce qui a été posé, en gros, depuis quelques années à l'égard de la Russie. Et il faut complètement reconstruire cette réflexion sur... Quelle place on donne à la poussée des valeurs démocratiques et quelle place on donne à la stabilité internationale.
Éric Margolis.
Je me demande combien est-ce que le pouvoir américain va reculer à cause de la crise financière. On ne sait pas encore, mais la puissance américaine à travers le monde global a été exprimée surtout par l'argent, pas par les forces militaires, qui étaient pour un grand empire assez modeste. Mais c'est de l'argent. Les États-Unis ont acheté tout le monde, comme on parlait des Kyrgyzstanis, que j'appelais Petrolistanis. Mais maintenant, on va voir, et on ne sait pas ce qui va passer à Washington, parce qu'ils font l'imprimer des milliards et des milliards de dollars, ça doit enfin provoquer une inflation et de purs problèmes économiques. Les Russes, à mon avis, n'ont qu'à être patients et voir les problèmes qui vont se produire pour les États-Unis. Mais j'ai aussi noté que si l'OTAN perd la guerre en Afghanistan, à mon avis, les Américains ont grand peur de ça parce qu'ils ils craignent qu'une défaite en Afghanistan peut provoquer la chute de l'alliance en Europe. Parce que les Européens, et surtout les Français, vont dire mais à quoi sert l'OTAN où nous avons subi une défaite dans les montagnes de l'Afghanistan. Il vaut mieux tourner vers une armée unifiée européenne. Alors, à mon avis, les Russes ont une certaine importe avantage maintenant. Et il faut souligner, comme on a fait dans la guerre froide, que la Russie reste toujours une puissance terrestre. Et les Russes n'ont qu'envoyé leurs chars quelques centaines de kilomètres, tandis que les Américains doivent transporter les armées et les avions à travers les océans.
Alors chacun, c'est ce qu'on a compris de ce qui s'est dit jusqu'à présent, Américains, Russes et les autres, va devoir trouver une réaction finalement à la crise financière. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors Marie Mandras et Galia Kerman, on évoquait quand même aussi ce manque de projet de la Russie sur le plan international, parce que quoi, il faut d'abord réagir à ce qui se passe, la crise économique. Quelles sont aujourd'hui, si on doit les évoquer, les forces de la Russie d'un côté et ses faiblesses? Marie Mandras, peut-être.
Oui, mais comme souvent, les forces sont aussi les faiblesses d'un grand État. C'est pour ça que, bien entendu, les Russes peuvent facilement aujourd'hui reverrouiller certaines de leurs positions en Biélorussie, au Kyrgyzstan, en Ukraine et ailleurs. C'est clair, enfin c'est tellement facile pour eux de le faire. Ils ont essayé de nouveau de le faire, par exemple, en coupant le gaz à l'Ukraine et à l'Europe. Alors, mais on peut l'interpréter toujours des deux manières. D'un côté, c'est une démonstration de force. Ben oui, nous avons quasiment le monopole du gaz naturel qui va vers une bonne partie de l'Europe centrale et on veut vous rappeler qu'on a cette force. Mais en même temps, c'est une faiblesse aussi incroyable que d'être obligé d'aller aussi loin dans le rapport de force et de compliquer aussi leur rapport avec la plupart de leurs voisins et des pays d'Europe. Donc je crois que les Russes font une politique à court terme. Ils essayent d'utiliser au maximum ce qu'ils voient comme leurs cartes, et leurs cartes, ce sont bien entendu toutes celles qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les erreurs américaines, la faiblesse de la politique européenne, leur domination énergétique sur le continent, et je me répète, le fait qu'ils ne sont pas gouvernés de manière démocratique, que donc il n'y a pas de garde-fous et que les dirigeants peuvent prendre à peu près les décisions qu'ils veulent en politique extérieure, puisque personne ne leur demande réellement de compte. Moi, je crois que ils testent en ce moment aussi la position de l'Europe et en particulier ce qui va se renouer dans les relations transatlantiques, c'est-à-dire les politiques européennes avec les politiques de l'Alliance Atlantique en liaison avec la nouvelle administration Obama. Et je crois qu'ils sont inquiets des capacités qui peuvent venir de l'Occident parce que eux-mêmes, les Russes, n'ont pas de véritables alliés. Ils aiment affaiblir la souveraineté de leurs voisins, mais donc ils n'en sont pas de réels alliés. Et ils ont toujours du mal à gérer les alliances multilatérales qu'ils ont quand même du mal à guider dans le sens qu'ils désirent. Et je crois qu'il faut quand même rappeler que, bien sûr, les situations de crise peuvent pousser des régimes autoritaires à verrouiller d'autant plus, mais à plus long terme, la Russie est actuellement en période de déclin, elle a moins d'argent, elle a moins de capacité aussi de faire des cadeaux à droite et à gauche, et elle sait que la situation ne va pas se rétablir dans les 2 ans qui viennent.
Moins d'argent parce que le gaz et le pétrole leur apportent moins aujourd'hui. Galia Kerman, de toute façon, de ce que disait Marie Madras, les Russes ne sont pas les rois des alliances effectivement multilatérales, ils sont plutôt les rois des alliances bilatérales, ce qui fait le jeu des Russes en Europe, avec une Europe très divisée sur un certain nombre de points, et notamment dans ses relations avec la Russie.
C'est vrai que les Russes ont pendant très longtemps cru que l'Union européenne ce n'était pas sérieux, alors que l'Union européenne existait déjà depuis des dizaines d'années. Ils continuaient à privilégier les alliances bilatérales en Europe. Vous vous souvenez, cet axe Paris-Berlin-Moscou qu'ils ont promu pendant très longtemps aux dépens de l'ensemble de l'Union européenne. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, pour pratiquement la première fois, il a réussi à faire parler l'Union européenne d'une seule voix, de sorte que c'est devenu un peu plus une réalité géopolitique pour les Russes. Mais, si vous voulez, j'aimerais revenir un peu en arrière sur le fond du problème. La Russie a hérité cette mentalité impériale qui a été la sienne pendant des siècles et sûrement pendant la période soviétique.
Et ça ne s'efface pas comme cela, c'est ça que vous voulez dire.
Et elle a toujours eu, il ne faut pas l'oublier, elle a toujours eu infiniment moins de moyens que les États-Unis. C'est-à-dire que les réponses ont toujours été asymétriques, un peu par la ruse, un peu par la nuisance. Et je crois que c'est cette politique que la Russie reprend à l'heure actuelle. Regardez ce qu'elle fait. Elle reprend, par exemple, les grandes manœuvres maritimes dans le Pacifique, qu'elle n'a pas fait depuis l'ère Eltsine. Elle renoue des relations avec un peu les parias internationaux comme Chavez, comme
Venezuela,
comme l'Iran, avec lequel la Russie a une relation très ambiguë. Et je me demande, est-ce que par exemple cette décision de fermer la base de Manas ne joue pas un tout petit peu aussi les intérêts de l'Iran?
La base de Manas au Kyrgyzstan dont on parlait
oui,
en début d'émission.
Et il ne faut pas oublier que par exemple Vladimir Poutine a invité Hamas à Moscou alors que l'Union européenne et les États-Unis reconnaissent que c'est un régime terroriste. C'est-à-dire que la Russie continue une politique où, un peu par les alliances plus ou moins nocives, par des petits moyens, après tout. Vous voyez, ils viennent de donner un peu d'argent à Cuba, et peut-être que Cuba redevient aussi plus opérationnel dans le dispositif sécuritaire, comme ça a été dans les années 60, quand il y a eu la fameuse crise des missiles.
Cuba qui permet aux Russes de se rapprocher des États-Unis.
Par exemple, si vous imaginez que d'une part, il y a la fermeture graduelle, par exemple, des points de chute des Américains en Asie centrale et l'ouverture de bases et de facilités à Venezuela, puis à Cuba. L'équilibre change un tout petit peu. On ne dit pas contre qui c'est dirigé. On n'a pas nommé l'ennemi, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis sont, et aussi l'Europe, sont systématiquement vilipendés dans les médias russes. Donc là aussi, le discours est très ambigu.
Est-ce que, Éric Margolis, tout cela, tout ce que vient d'évoquer Galia Ackermann, cette capacité de nuisance de la Russie, agace un peu, beaucoup, les Américains?
Oui, les Américains sont concernés, pas surtout par le gaz, parce qu'ils considèrent que c'est un problème des Européens. Si les Européens ont froid, tant pis. Mais ce que les Américains ont fait à la Russie, très sérieuse, parce que les Russes avaient l'impression que l'OTAN les encerclait, poussait l'OTAN jusqu'à la frontière de Russie. Et cette affaire, à mon avis, très stupide de Géorgie, d'essayer d'inviter Géorgie et Ukraine pour devenir membre de l'OTAN était dangereuse, provocatrice, et je me méfie beaucoup de ce qui va passer en Ukraine pour tous les Russes. Le gouvernement est si fragile en Ukraine que c'est possible que Poutine va prendre cette occasion de renverser le gouvernement et de reprendre l'Ukraine dans les bras de la Russie. Alors, les Russes sont défensifs, à mon avis. Ce qu'ils font en Cuba, c'est rien. Je viens de rentrer de Cuba et ils vont donner quelques armes aux forces armées cubaines.
Pour terminer l'émission, j'en reviens à la première question qui lançait le sujet d'aujourd'hui. Y a-t-il un problème dans le monde qui puisse être résolu sans la Russie? Pierre Connaissat.
Il y a des tas de problèmes qui peuvent être résolus sans la Russie. La seule question, c'est on ne pourra résoudre les problèmes de la planète que dans une conception multilatérale de la sécurité. Et je pense, j'espère, j'ose espérer que l'Europe va commencer à exprimer une réflexion stratégique. On a parlé de l'Asie centrale. Moi, je crois qu'il faut saluer l'initiative de Solana de demander à l'ambassadeur Pierre Morel de mener une réflexion sur la stratégie européenne en Asie centrale, qui était différente de la stratégie américaine en Asie centrale. Nous n'avons pas besoin de faire des opérations militaires conjointes en Asie centrale pour demander à la Russie ce qu'elle en pense, ou en tout cas, on ne veut pas en faire parce qu'on estime que la relation n'a pas besoin d'être militarisée.
Marie Mandras.
Oui, mais les dossiers les plus sensibles pour nous, Européens, avec la Russie, c'est d'une part l'énergie et d'autre part l'évolution de l'Ukraine et de la Géorgie. Et au-delà aussi de la Moldavie, de l'Arménie, de la Biélorussie, il faut bien comprendre que c'est un enjeu absolument crucial. Ce que vont devenir l'État ukrainien et l'État géorgien, qui sont de plus en plus sous pression des intérêts sécuritaires et économiques russes. Il faut voir que la relation entre l'Ukraine et la Russie, c'est pas tant une relation d'État à État, d'armée à armée. C'est une relation qui est guidée par des intérêts économiques dont on ne connaît pas tout. On a bien vu ça de nouveau dans la crise du gaz de janvier. Mais l'Europe doit reconnaître que si l'Ukraine et la Géorgie ont une souveraineté de plus en plus faible, sont des États qui peuvent de plus en plus difficilement être gouvernés de l'intérieur. Pour nous, c'est un gage de faiblesse et d'insécurité. Donc, même si on considère que c'était peut-être trop tôt de les inviter à un partenariat renforcé dans l'OTAN, on ne peut pas tout simplement faire comme si l'Ukraine et la Géorgie n'existaient plus afin de renforcer un lien stratégique énergétique avec Moscou.
Très rapidement, Galia Ackermann.
Je voudrais juste souligner qu'à La différence de ce que dit M. Margolis, moi je ne considère pas que c'était une provocation américaine d'inviter l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN. Il faut quand même dire que c'était le souhait de ces gouvernements et pour la Géorgie en tout cas de son peuple parce qu'il y a eu un référendum. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que nous on brade le désir libre de ces peuples qui ne datent pas d'aujourd'hui ni de l'époque post-soviétique parce qu'il y a eu déjà l'Ukraine indépendante et la Géorgie indépendante qui n'ont pas longtemps existé parce qu'ils ont été occupés par l'armée rouge, mais que ces contradictions entre, si vous voulez, l'Empire russe et ces pays est une contradiction profonde et ancienne.
Éric Margolis, pour terminer.
C'est dommage qu'on oublie les Tchétchènes. Il faut inclure les Russes et faire attention à leurs besoins parce que l'exclusion de la Russie, ça va encourager toutes les forces anti-occidentales en Russie, les slavophiles acharnés.
Merci. C'est la fin de Géopolitique, le débat consacré à la place de la Russie dans le monde. Merci à nos invités. Marie Mindras, auteur de Russie, l'envers du pouvoir, que nous avions avec nous par téléphone depuis Londres. Pierre Conessa, directeur général de la Compagnie européenne d'intelligence stratégique. Éric Margolis, journaliste américain et auteur de American Rage, l'Empire américain, écrit en anglais, peut-être prochainement traduit en français, nous verrons. Et Galia Ackerman, de la rédaction russe de RFI. Géopolitique était signé Marie-France Chatin. Merci à Sabine Derosière pour son aide précieuse également à la documentation de RFI. Nathalie Laporte était à la réalisation, Joël Hermand à la technique. Et la semaine prochaine, justement, Géopolitique sera consacrée à l'Afghanistan. À très bientôt.